Ce balado vous est offert par le Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Pour en savoir davantage sur le CRDP, visitez le www.crdp.umontréal.ca.
Merci beaucoup, bonjour, plutôt bonsoir. Je voudrais remercier évidemment le CRDP pour cette invitation, et plus précisément son directeur, M. Karim Beniaclef, et le professeur Nanette Neuval. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, puisque je vais effectivement tenter de réfléchir sur la question de la protection des droits fondamentaux en Europe. Alors c'est une question qui est difficile en fait, puisque les droits fondamentaux sont multiples. Tout d'abord, quelquefois la matière est technique. Et puis, c'est également une matière qui est effectivement, si elle est juridique, elle est aussi politique, effectivement, puisque le droit est bien la continuité de la politique, quelque part. C'est une matière également complexe, puisque elle porte à tous les débats, quelquefois des débats agités, notamment. Je fais référence par exemple à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui en 1975 a fait beaucoup de bruit en France, puisque qui dit interruption volontaire de grossesse dit d'un côté le droit à la vie, effectivement, et puis de l'autre côté le droit de la femme de disposer effectivement de son corps. Donc quelquefois il y a des sujets véritablement politiques. Alors pour traiter cette contribution, je vais la traiter selon deux grandes parties, en fait. Dans une première partie, je vais tenter de démontrer que la protection des droits fondamentaux en Europe apparaît véritablement comme une réalité, en fait. Et puis, dans une seconde partie, je tenterai de mettre en avant les obstacles qui viennent limiter une telle protection. Alors pour traiter cette question, je vais me situer effectivement dans le cadre européen, plus précisément dans le cadre de l'Union européenne, et puis quelquefois je vais élargir le sujet en dehors de cette Union européenne, et puis traiter le sujet sur la base des États qui sont membres du Conseil de l'Europe. Donc ce sera beaucoup plus vaste. Alors, c'est vrai que lorsque l'on parle de la construction européenne, on parle avant tout, on pense avant tout aux droits économiques. La construction européenne, effectivement, s'est faite sur la base de la libre circulation des personnes, sur la mise en place d'un marché commun en 1957. Et cette mise en place du marché commun devait passer par plusieurs étapes, notamment l'abolition des frontières entre les États, la mise en place d'un tarif douanier commun, la libre circulation des personnes, et la mise en place également d'une politique de coordination, des politiques commerciales notamment, mais également en matière budgétaire. Alors, quid des droits fondamentaux dans cette construction européenne? Alors effectivement, ils existent, ces droits fondamentaux, et avant d'aborder cette question, je souhaiterais tout d'abord effectivement préciser qu'est-ce que l'on appelle exactement droits fondamentaux. Alors il me semble qu'il y a plusieurs conceptions lorsque l'on parle des droits fondamentaux. Il y a une conception que l'on peut la qualifier d'axiologique en fait, c'est cette conception qui consiste à dire finalement que les droits fondamentaux ce sont les droits inhérents à toute personne, qui concernent tout citoyen, tout individu. Nous avons d'un autre côté, en fait, la conception formelle, qui consiste ici à dire que les droits fondamentaux, ce sont les droits qui se trouvent au sommet d'un ordonnancement juridique au sein d'une société donnée. Et donc, par exemple, concrètement, ces droits fondamentaux, on les trouve dans les constitutions des États. Et à ce titre, on peut citer la constitution allemande, en fait, qui possède un titre premier sur ces droits. Et enfin, nous avons la conception structurelle. Dans cette conception structurelle, qui est la troisième, eh bien, elle consiste à dire que les droits fondamentaux apparaissent comme les supports de toute société démocratique, de tout état de droit. Alors, cette question nous intéresse tous pour plusieurs raisons. Nous sommes d'abord tous concernés par les droits fondamentaux, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de circulation. Et puis également, on s'aperçoit que ces droits fondamentaux sont quelquefois, font l'objet de l'actualité. Je pense notamment à l'Italie, par exemple, où un rapport en 2002 d'un réseau d'experts indépendants, en fait, faisait référence au risque, en fait, d'atteinte à la liberté d'expression du fait notamment de la concentration des médias, par exemple. Donc ce sont des questions récurrentes. Alors voyons dans une première partie, la protection des droits fondamentaux en Europe. Pour traiter cette question, je vais effectuer un raisonnement en deux parties, en fait deux approches plus précisément. Nous allons avoir dans un premier temps, si vous voulez bien, une approche strictement étatique, à travers les États, et puis dans un deuxième temps, une approche beaucoup plus européenne, c'est-à-dire en partant des institutions européennes, que ce soit l'Europe géographique avec le Conseil de l'Europe, ou encore l'Europe politique à travers l'Union européenne. Alors, tout d'abord, les protections étatiques. Alors, effectivement, on constate que la plupart et toutes les constitutions des États de l'Union reconnaissent un certain nombre de droits. Alors, évidemment, on pense à la liberté d'expression, on peut penser à la liberté d'association, on peut penser également au droit du justiciable, et là, encore une fois, je citerai la constitution italienne, puisque parce qu'elle attache une attention particulière au droit du justiciable. D'ailleurs, en fait, je fais référence à l'article 6 en fait, de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment, où c'est l'accès au juge, la présomption d'innocence, notamment. Et donc, c'est une question ici importante, et l'Italie se démarque, c'est vrai, de certains autres pays, puisque cette question-là est développée de manière importante. La question des droits sociaux également apparaît, puisque lorsque l'on parle des droits de l'homme, lorsque l'on parle des droits fondamentaux, on ne peut pas résumer et limiter cette question aux libertés économiques ou aux libertés publiques au sens strict du terme. Effectivement, il y a également les droits sociaux, et ces droits sociaux, on les retrouve dans toutes les constitutions européennes, plus ou moins développées. Je citerai la France, par exemple, qui dans le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958, vous avez le droit à la protection sociale, le droit à la sécurité sociale qui est reconnu, et l'État, nous dit la Constitution, l'État doit garantir des moyens convenables d'existence à toute personne se situant sur le territoire français. Il y a enfin les droits, ce que l'on appelle de troisième génération, droit de l'environnement, par exemple. La constitution de Suède, à ce niveau-là, est intéressante, puisqu'elle fait référence à la notion de développement durable. Et toutes les constitutions européennes ne font pas forcément référence à une telle notion. Alors, vous voyez, dans un premier temps, on constate que la reconnaissance des droits fondamentaux est une réalité, mais il faut savoir aussi qu'on assiste à une consolidation dans de nombreux États, on assiste véritablement à une consolidation de ces droits. Par exemple, pour les personnes handicapées, je citerai une réforme autrichienne, en fait, de 2005, qui reconnaît formellement le langage des signes, en fait, comme une langue indépendante. La constitution grecque a été révisée en 2001 également. Et la révision est intéressante puisqu'elle pose le principe que l'État doit prendre des mesures positives pour garantir l'égalité homme-femme à tous les niveaux de la société. Donc on voit bien comment il y a un mouvement quand même qui se dessine à ce niveau-là. La République slovaque également, troisième exemple, la République slovaque a modifié sa constitution en 2002 également, et suite à cette révision, tout citoyen slovaque, a la possibilité de faire un recours devant évidemment les tribunaux afin de contester la durée d'un litige. Et donc c'est le droit pour toute personne à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable, en fait. Et donc là, on voit bien quand même quelque part comment, en fait, il y a une influence de la Convention européenne des droits de l'homme, hein, sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On voit bien comment il y a une influence de cette convention sur le droit constitutionnel des États. Alors, protection constitutionnelle, évolution constitutionnelle, il me semble, moi, dans le sens de la protection. Et puis nous avons également, à côté de cette protection constitutionnelle, on constate des protections législatives également. Alors, un exemple pour illustrer cela, l'Espagne en 2005, l'État espagnol a adopté une loi afin de protéger l'intégrité de la personne, et cette loi permet aux autorités judiciaires espagnoles d'engager des poursuites extraterritoriales, en fait, à l'encontre de certaines personnes. Et ici, il s'agissait, en fait, de la possibilité de poursuivre la pratique de la mutilation génitale féminine, en fait, puisque des personnes d'origine étrangère, en fait, habitant en Espagne pendant l'été, partaient au pays et puis revenaient. Et il y avait finalement cette question qui arrivait dans l'actualité. Et donc, effectivement, l'Espagne a légiféré dans ce domaine. L'Italie est allée également dans le sens de la protection du droit d'asile, également, puisque une réforme a réformé le droit d'asile. De quelle manière, en fait? Il faut savoir que dans un premier temps, le traitement de l'asile était centralisé, en fait, en Italie. Et aujourd'hui, le traitement de l'asile est décentralisé. Donc on a la création, si vous voulez, de cette agence, en fait. Et donc ça va réduire les délais pour que les demandes soient traitées. Donc on voit bien comment les pays, en fait, hein, intègrent cette protection. Enfin, à côté de la protection constitutionnelle, à côté de la protection législative, il y a une protection judiciaire, enfin, de la part des États. Il faut quand même le souligner. Par exemple, je vais rebondir en fait sur le droit d'asile. En 2005, en France, un tribunal administratif, et plus particulièrement en fait le tribunal administratif de Toulouse, en fait, a considéré que le droit d'obtenir un interprète est un droit fondamental, puisque le fait de ne pas fournir un interprète à un étranger qui fait une demande d'asile, eh bien cela revient en fait à lui ôter toute possibilité d'obtenir un tel droit, sachant que ce droit est reconnu constitutionnellement, hein, c'est-à-dire par la Constitution française. Donc vous voyez, il y a également l'intervention de la justice, que ce soit la justice de droit commun, mais également la justice constitutionnelle. Alors la justice constitutionnelle, elle est intervenue à plusieurs reprises dans différents pays, et par exemple l'Allemagne qui, où la Cour constitutionnelle, dans un arrêt de 2002, est venue reconnaître, protéger plutôt, en fait, protéger, le mot est plus juste, protéger la liberté du travail, puisque le législateur de l'époque souhaitait empêcher les pharmaciens d'ouvrir le dimanche, et plus particulièrement 4 dimanches, en fait, par an. C'était ce qu'on appelle les journées spéciales d'achat, en fait, hein, 4 fois par an. Et donc, le législateur a été complètement désavoué par la Cour constitutionnelle. Donc, vous voyez, les États interviennent. Je pense qu'au niveau étatique, il me semble, moi, qu'il y a une tendance qui se dégage, même si elle peut être lente, hein, peut-être, pour certains, on peut considérer qu'il y a une certaine lenteur, mais quoi qu'il en soit, il me semble qu'il y a une tendance qui se dégage, consistant à reconnaître, consolider, protéger ce que l'on appelle les droits fondamentaux. Alors, ces droits fondamentaux, ils ne sont pas seulement protégés au niveau des États. Ils sont également reconnus et protégés au niveau européen. En effet, ils sont reconnus dans plusieurs cadres. Tout d'abord, dans le cadre du Conseil de l'Europe, par exemple, à travers la Charte sociale européenne, Charte sociale européenne qui a été révisée, hein, aujourd'hui, qu'on appelle Charte sociale révisée, en fait, de 1996. Et cette nouvelle charte, en fait, est venue compléter la première, notamment faisant intervenir, par exemple, le droit de toute personne à un revenu équitable. Premier instrument. Alors, cette charte, son application s'effectue de deux manières, puisque elle est assez... Elle est contraignante et non contraignante, en fait, c'est le débat peut-être que nous avons eu. On peut dire qu'elle est contraignante, puisque les États ont obligation tous les deux ans de faire parvenir un rapport en direction du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Et puis également, elle est contraignante parce que en 1995, eh bien, nous avons un protocole qui est venu s'ajouter, hein, s'accoler, si vous voulez, à cette charte, et qui permet d'effectuer des réclamations collectives de la part d'associations, ou encore de syndicats, d'employeurs ou encore de salariés, mais également d'ONG. Alors, la France a fait l'objet d'une réclamation collective sur la base de ce protocole en 2001, puisque la France a été très critiquée par le comité des ministres sur le non-respect du droit syndical, en fait, puisque la législation fait obligation, en fait, hein, aux agents de la force publique, en fait, de se syndiquer, mais les droits syndicaux restent limités. Deuxième élément, effectivement, élément très important, lorsque l'on parle de l'Europe et des droits fondamentaux, il s'agit de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette convention, qui date de 1950, effectivement, fait référence à plusieurs droits, liberté d'expression, droit de propriété, dans le cadre de son protocole, liberté de réunion, notamment, le droit à un tribunal indépendant, le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, également. Donc ce sont des questions sur lesquelles on peut revenir. Alors, les droits fondamentaux, on s'aperçoit également qu'il y a une montée en puissance, en fait, dans le cadre, cette fois-ci, de l'Union européenne. Hein, donc nous ne sommes plus dans le cadre du Conseil de l'Europe, si vous voulez, nous sommes vraiment là dans le cadre de l'Union européenne, puisque en 1957, eh bien, les droits fondamentaux restent quand même timides, hein, font l'objet d'une certaine timidité, puisque le traité nous dit en fait que la communauté européenne a pour but essentiel l'amélioration constante des conditions de vie des citoyens européens. Hein, donc c'est assez effectivement succinct. Le traité de Maastricht en 1992 va apporter une pierre qui est assez conséquente, puisque dans le cadre de ce traité, il sera mentionné l'attachement des États à la démocratie, à l'état de droit et au respect des droits de l'homme. Le traité de Maastricht va également mettre en place une citoyenneté européenne, et à travers cette citoyenneté européenne, eh bien, certains droits politiques, qui sont eh bien, le droit pour tout citoyen européen de participer à des élections au Parlement européen, mais également de se présenter à ces élections, qu'elles soient européennes, mais également municipales. Le traité d'Amsterdam va aller encore plus loin, lui, par contre, va aller plus loin d'une manière assez intéressante, puisque elle va accorder un pouvoir important à la Cour de justice des communautés européennes, puisque depuis Maastricht, en fait, eh bien, il était mentionné que l'Union respecte les droits fondamentaux, et notamment l'Union européenne respecte la Convention européenne des droits de l'homme. Le problème qui se posait, c'est qu'avant le traité d'Amsterdam, en fait, la Cour de justice ne pouvait pas se baser sur ses dispositions dans le cadre de sa mission. Depuis Amsterdam, eh bien, le verrou a sauté, en fait, hein, puisque depuis 1997, la Cour de justice peut faire référence à cette formulation, à cette base juridique dans le cadre de ces décisions. Donc il s'agit là, effectivement, hein, je pense, d'une évolution importante. Le traité de Nice, 2001, va aller dans ce sens-là également, puisque nous avons le vote à la majorité qualifiée, nous avons passé de l'unanimité à la majorité qualifiée, pour tout ce qui concerne les décisions relatives à la lutte contre les discriminations, qu'elles soient sur la base du sexe, de la race, ou de l'origine ethnique, ou encore de la religion, du handicap, ou de l'orientation sexuelle. 2007, traité de Lisbonne, apport important une nouvelle fois, donc on voit bien comment les droits fondamentaux en fait apparaissent dans la construction européenne, puisque le traité de Lisbonne vient réformer l'article 2 qui a institué, cet article 2 qui concerne en fait, si vous voulez, les missions de l'Union européenne, et on remarque une montée en puissance des droits fondamentaux, puisque l'article est complètement réécrit. On voit apparaître la notion de protection de l'environnement, on voit apparaître la notion d'exclusion sociale, la notion de justice sociale, et donc il y a une véritable dimension sociale qui apparaît dans cet article. Et le style employé également est beaucoup plus combatif, en fait, hein, puisque il est bien précisé hein, que l'Union, véritablement, doit tendre à lutter contre l'injustice sociale, à lutter contre l'exclusion sociale. Donc la forme est aussi intéressante que le fond. Autre apport effectivement important de l'Union, l'Union vient reconnaître, le traité de Lisbonne vient reconnaître la valeur juridique de la Charte des droits fondamentaux. Donc il s'agit d'un point important. Et également, ce traité vient préciser que l'Union, et plutôt la formulation en fait, utilise une nouvelle formulation, il y a une évolution au niveau de la, me semble-t-il, au niveau de la formulation, puisqu'il est précisé que la Convention européenne des droits de l'homme, comme la tradition constitutionnelle des États membres, fait partie du droit de l'Union. Donc il y a une nouvelle évolution qui se fait par rapport à ça, et on voit là se cristalliser véritablement un nouveau système de protection dont le but est de donner toute l'effectivité aux droits que nous venons de citer. Alors, effectivement, vous voyez, reconnaissance des droits fondamentaux au niveau européen, mais également protection. Protection spécifique par la Cour européenne des droits de l'homme. Cette Cour a vu ses pouvoirs s'accroître en 1998 tout d'abord, puisque en 1998, les personnes faisant un recours ne sont plus obligées de passer par la Commission. Hein. Antérieurement, il y avait le filtre finalement de la Commission. Aujourd'hui, le recours s'effectue directement auprès de la Cour. Et puis, depuis le 1er juillet 2006, en fait, nous avons assisté à la mise en place d'un nouveau règlement concernant la Cour qui permet à cette Cour de prendre des mesures, certaines mesures, en fait, en cas d'urgence. Donc, il y a une capacité d'action assez rapide. Et donc, ça nous fait penser un peu au référé dans certains pays, hein, la procédure du référé dans certains pays, dont celui, dont la France, par exemple. Alors, cette Cour européenne, eh bien, intervient régulièrement, de plus en plus, au niveau des droits fondamentaux et n'hésite pas à sanctionner les États. Par exemple, à titre d'exemple, en 1990, eh bien, la France, en fait, a été sanctionnée pour atteinte à la vie privée. Alors, en effet, le droit français, à l'époque, permettait aux officiers de police judiciaire d'effectuer effectivement des écoutes sur demande d'un juge d'instruction. Cependant, ces écoutes n'avaient pas de régime juridique en fait propre. Il s'agissait d'un acte d'instruction comme, comme il y en a bien d'autres, en fait, pas limité dans le temps. Hein, et donc, il régnait une certaine insécurité. La France a été condamnée et suite à cela, eh bien, en 91, elle a modifié sa législation. Et aujourd'hui, les écoutes téléphoniques, en fait, font l'objet d'un régime juridique propre où il y a une délimitation dans le temps et un contrôle très strict du juge d'instruction. Cette Cour européenne des droits de l'homme, il faut savoir, n'hésite pas à faire des revirements de jurisprudence. Je citerai, par exemple, une jurisprudence en fait qui du 19 avril 2007. C'est une jurisprudence qui est assez importante en fait, puisque elle concerne les litiges relatifs aux fonctionnaires et l'application de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui concerne eh bien, les droits du justiciable, notamment la question du délai pour toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Jusqu'au 19 avril 2007, la Cour européenne des droits de l'homme s'est toujours prononcée sur son incompétence concernant ces litiges. Pourquoi ? Puisqu'elle explique à l'époque, en fait, avant 2007, cette Cour nous explique qu'en droit français, il y a les salariés du privé et puis les fonctionnaires, les agents de l'État. Et ces fonctionnaires sont chargés d'une mission de service public, en fait, représentent la force publique. Et donc, ils bénéficient d'un régime, en fait, qu'on peut dire, dérogatoire. Alors, cette position, effectivement, n'était pas tenable, en fait. Et la Cour européenne fait un revirement en 2007. Comment expliquer ce revirement ? Alors, la Cour nous explique, elle nous dit que dans tous les États européens, tout fonctionnaire a la possibilité d'effectuer un recours devant les tribunaux. Donc, il est tout à fait normal que ces fonctionnaires aient la possibilité de faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Hein ? Et donc, la Cour nous explique qu'il n'y a plus lieu de faire la distinction entre fonctionnaires, salariés de l'État, si vous voulez, et puis salariés du privé. On s'aperçoit, quand on regarde certaines décisions, finalement, que les raisonnements de la Cour sont véritablement à géométrie variable, quelquefois. Le raisonnement critiquable, mais le but de la Cour, encore une fois, c'est véritablement la recherche de la protection. Hein, à chaque fois, la Cour recherche la protection, et vous allez voir, dans certains arrêts, la Cour dit clairement, en fait, que sa jurisprudence évolue avec la société, hein, avec les valeurs qui existent à un moment donné dans une société. Donc ça, c'est intéressant pour comprendre un petit peu la jurisprudence. Alors, autre exemple, la France également, en fait, a été. La Cour européenne des droits de l'homme a effectué également un revirement de jurisprudence, en fait, le 22 janvier 2008, toujours concernant la France, puisque c'était dans le cadre de l'adoption qui a été refusée, en fait, à des couples homosexuels, le refus de l'administration française consistait à dire. Il y a une absence de référent paternel, donc l'intérêt de l'enfant n'est pas garanti, et donc on ne permet pas l'adoption. La Cour européenne, évidemment, dans un premier temps, il faut savoir que la Cour européenne a toujours appuyé en fait cette position du gouvernement français, et puis en 2008, revirement de jurisprudence, où, dans la mesure où la Cour nous dit que finalement, oui, effectivement, il y a violation de la vie privée et familiale, hein, ainsi que violation de l'article 14 de la Convention qui concerne la lutte contre les discriminations. Alors, les revirements de jurisprudence sont effectivement très, très importants, hein, dans la politique de protection de la Cour, mais la Cour utilise de multiples techniques de protection. Par exemple, dans un arrêt de juillet 1999, la Cour nous explique que la Convention européenne des droits de l'homme est un instrument vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions de vie actuelles. Alors, de quoi il s'agissait dans cette affaire de 1999 ? L'article en jeu était l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui concerne l'interdiction de la torture ou encore des actes, hein, ou peines dégradants. Et dans cet arrêt, on assiste à une évolution puisque la Cour revient sur sa jurisprudence de 92. Alors, concernant les faits très, très rapidement, en fait, hein, en 92, en fait, la France, ça concerne la France, hein, l'État français. En 1992, une personne, nationalité française, corse, en fait, militait dans une association corse. Et donc, cette personne a fait l'objet d'une garde à vue. Hein, cette garde à vue qui a duré, effectivement, plus de 48 heures. Au cours de cette garde à vue, cette personne a fait l'objet, eh bien, d'un traitement dégradant de certains sévices, comme des coups de pied, des gifles notamment, en fait, ou menottés dans le dos, sans appui. Donc, et la Cour a qualifié cette situation, a condamné la France, en la qualifiant, eh bien, d'atteinte, hein, qu'il s'agissait bien d'une atteinte à l'article 3, puisqu'il s'agissait d'un traitement inhumain et dégradant. Et la Cour nous dit pourquoi inhumain et dégradant, parce que cette personne a subi des souffrances, en fait, a subi des souffrances qui se sont étalées dans le temps. 99, nouvelle affaire, de garde à vue également. Une personne qui a fait l'objet de mauvais traitements, garde à vue pendant 72 heures, en fait, et... eh bien, on pouvait s'attendre à ce que la Cour rejette la qualification de torture et, dans la lignée de sa jurisprudence, en fait, vienne qualifier ces actes, hein, qui étaient assez similaires, hein, avec l'arrêt de 92, de traitement inhumain et dégradant. Eh bien, la Cour va faire un revirement, puisqu'elle va qualifier ces actes de torture, en fait, et les juges explique très bien, hein, argumente par rapport à ça. Les juges nous disent la chose suivante dans cette affaire. Ils disent oui, mais très bien, en 92, ce fut une autre époque. Aujourd'hui, la société a évolué. Et aujourd'hui, qu'attend la société ? Eh bien, la société est de plus en plus sensible à la protection des droits fondamentaux en Europe. Et donc, la Cour également est de plus en plus sensible à la protection de ses droits. Et donc, c'est à la lumière, si vous voulez, des valeurs de la société à un moment donné, eh bien, que la Cour va statuer, et concernant ses actes, elle va statuer dans le sens, effectivement, de l'acte de torture. Autre technique, qu'il s'agit de la théorie des libertés implicites. Qu'est-ce que cette technique qui date de 1989, en fait? Alors, dans cette affaire, il s'agissait du Royaume-Uni, et le Royaume-Uni devait extrader une personne aux États-Unis, en fait, et donc l'extradition, effectivement, n'est pas interdite, hein, en soi, par la Convention européenne des droits de l'homme, mais la Cour, eh bien, va condamner le Royaume-Uni, alors même que le fait d'extrader n'est pas condamnable. Mais que dit la Cour ? La Cour dit, mais effectivement, le Royaume-Uni ne porte pas directement atteinte à la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment à son article 3. Et la Cour ajoute, mais le fait d'extrader cette personne, particulièrement vers les États-Unis, eh bien, cette personne risque la peine de mort et risque un traitement inhumain et dégradant. Et la Cour nous dit que cette personne, en étant extradée, risque de subir le syndrome du couloir de la mort. Sachant qu'une peine prononcée, quelquefois, les personnes peuvent rester dans le couloir, nous dit la Cour, entre 6 et 8 ans. Je reprends les termes de la Cour. Alors, donc vous voyez de quelle manière hein, cette Cour peut intervenir. Alors, pour accélérer un petit peu, je parlerai notamment de l'action de la Cour de justice des communautés européennes. La Cour de justice également a un rôle très important dans ce domaine-là, puisqu'on voit une évolution, puisqu'en 69, elle met en avant que les droits fondamentaux intègrent les principes généraux du droit. En 1970, nouvelle étape, puisqu'elle nous dit que les principes généraux du droit s'inspirent eh bien, des traditions constitutionnelles des États membres. En 1974, elle nous dit que les principes généraux du droit s'inspirent des traditions constitutionnelles des États membres, mais également des traités touchant les droits fondamentaux auxquels les États sont partis. En 2000, eh bien, cette Cour fait même référence hein, à la Charte des droits fondamentaux. Hein, alors on peut s'étonner effectivement dans un premier temps qu'elle fasse référence à cette charte, hein, puisque cette charte a été signée par l'ensemble des États, mais pas ratifiée, donc pas de valeur juridique contraignante, même si là on peut effectivement discuter. Alors, voilà, dans cette première partie, ce que j'ai voulu montrer, c'est que finalement, la question de la protection des droits fondamentaux en Europe est une réalité. Des droits reconnus, mais également, effectivement, des droits protégés. Mais d'un autre côté, on constate que cette protection est relative, en fait. Cette protection est relative pour défendre cette idée. Je vais, comme pour la première partie, eh bien, tout d'abord, mettre en avant les limites des protections étatiques, et puis dans un deuxième temps, tenter de mettre en avant les limites de la dimension européenne de protection. Alors, limites des protections étatiques. Eh bien, tout d'abord, dans les États, on constate que eh bien, les droits fondamentaux doivent faire face aux pratiques de ces États. Par exemple, en Pologne, en 2005, eh bien, le maire de Varsovie a refusé le droit pour une association d'homosexuels de défiler. Hein, il s'agissait de l'Equality Foundation, en fait, hein, qui avait organisé, si vous voulez, une Equality parade. Et donc, ça a été refusé. Donc, voilà, un exemple parmi tant d'autres. On pourrait parler également de la France, hein, puisque divers rapports, notamment du commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, soulignent la surpopulation carcérale en France et assimilent cela, en fait, à un traitement inhumain et dégradant. Autre limite, les droits fondamentaux trouvent une limite face aux droits des États. Par exemple, aux Pays-Bas, eh bien, un rapport du réseau d'experts de 2005 met l'accent sur le non-respect par les Pays-Bas du droit pour toute personne à des conditions de travail justes et équitables. Il s'agit droit que l'on retrouve à l'article 4, en fait, hein, de la charte sociale européenne, puisque les employeurs n'ont pas obligation de payer, en fait, pas d'obligation légale de payer les heures supplémentaires, peut-être ça a changé entre temps, mais le plus souvent, le paiement de ces heures supplémentaires s'effectue sur la base de conventions, en fait, conventions d'entreprise, notamment. Et donc, ça crée une certaine inégalité entre, effectivement, les entreprises qui bénéficient d'une convention et puis les entreprises, évidemment, qui ne bénéficient pas de telles conventions. Autre limite du droit, on peut prendre l'exemple de Chypre. En effet, le code pénal, en fait, au niveau de l'État chypriote, précise que lorsqu'une personne est condamnée pour meurtre, eh bien, la peine est la perpétuité. Et donc, le code pénal chypriote ne tient pas compte, si vous voulez, des circonstances atténuantes. Et donc, cela peut poser également un problème, puisque dans certains cas, effectivement, la peine peut être disproportionnée face à la situation. Donc vous voyez de quelle manière eh bien, se met en place quand même, existe une certaine limite hein, du droit, mais pas uniquement une limite, hein, je pense qu'il y a également un recul. Hein, à travers mes recherches, j'ai pu constater quand même hein, qu'il y avait un recul du droit, hein, qui est intitulé « Les droits fondamentaux face au recul du droit », en fait. Par exemple, la République slovaque, en fait, a réformé son code de procédure criminelle, puisque ce code de procédure permet de mettre en détention un témoin pendant 72 heures. Témoin, eh bien, effectivement, hein, dont la justice a besoin dans le cadre de certains litiges. Le but étant eh bien, de retenir cette personne de peur qu'elle puisse prendre la fuite. La question qui se pose, c'est que finalement, une telle mesure n'est-elle pas disproportionnée par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme, qui reconnaît le droit à la sûreté hein, pour tout individu. Autre exemple de recul du droit, je prendrai le mariage homosexuel, par exemple, qui concerne en fait le droit de se marier et de fonder une famille, qui est reconnu par diverses dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment, plus précisément, l'article 12, en fait. Et puis, il faut savoir que dans ce cadre-là, la Lettonie, en 2005, est venue modifier la Constitution afin de préciser que le mariage, en fait, était hein, l'union hein, d'un homme et d'une femme. Pourquoi cette réforme? Eh bien, pour verrouiller, en fait, hein, toute possibilité future au niveau politique, hein, qu'une loi, que le Parlement puisse légiférer dans ce sens-là. Alors même que le mariage homosexuel est reconnu dans certains pays, hein, comme la Belgique ou encore l'Espagne. Autre limite au niveau étatique, eh bien, on constate que il y a un affaiblissement des droits fondamentaux à travers la multiplicité des États. Alors je m'explique, puisqu'il y a certains États qui accordent une attention particulière, par exemple, aux droits sociaux. C'est la Constitution espagnole, par exemple, hein, qui contient un certain nombre de dispositions importantes à ce niveau-là, alors que d'autres États, comme l'Irlande, sont beaucoup plus attachés à la question de la liberté. La question de l'environnement, par exemple, la France, en 2005, a réformé sa constitution et nous avons une charte de l'environnement hein, qui reconnaît la protection de l'environnement, notamment la notion de développement durable. Mais dans certaines constitutions européennes, l'Irlande, plus précisément, je pense à l'Irlande, eh bien, l'environnement n'y est pas mentionné. Je pense également, lorsque l'on aborde la question de la Constitution, il est vrai que qui dit droit constitutionnel, qui dit droits fondamentaux au sein de la Constitution, dit l'existence d'un organe capable de contrôler le respect de ces droits par le législateur. Alors, à ce niveau-là, on constate également qu'il y a une grande variété, puisque, par exemple, en France, notamment depuis une révision constitutionnelle de cet été, du 23 juillet, eh bien, tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel au cours d'une audience, afin que le Conseil constitutionnel, eh bien, statue sur la légalité d'un article de loi à la Constitution française. Dans certains États, comme l'État de Lettonie, en fait, eh bien, le citoyen n'a pas de possibilité de saisir la Cour constitutionnelle de cet État, puisqu'il faut, en fait, seuls peuvent la saisir des parlementaires ou encore le chef de l'État ou encore le procureur général. Enfin, je terminerai pour relativiser encore une fois cette protection sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Certains États ont mis du temps pour la ratifier. La France l'a ratifiée en 1974, quand même. Donc, on voit les réticences qui peuvent exister. La Suède n'a pas signé et ratifié le protocole numéro 12 de la Convention européenne des droits de l'homme qui concerne les discriminations. Autre exemple, la Pologne n'a pas ratifié le protocole numéro 13 qui concerne l'abolition de la peine de mort. Donc, effectivement, vous voyez, il y a des résistances encore qui relativisent cette protection. Également, toujours concernant la Convention européenne des droits de l'homme, certains États ont émis des réserves sur cette convention. Je pense par exemple à la France, en fait, qui a mis une réserve sur la base de l'article 15-1 de la Convention, puisque cet article 15-1, en fait, permet à un État de déroger aux dispositions de la Convention, c'est-à-dire de déroger à l'application de l'ensemble des droits fondamentaux, en fait, qui sont mentionnés. Mais, nous dit cet article 15-1, dans la stricte mesure où cela est nécessaire. L'État français a émis une réserve sur cette formule, en précisant, eh bien, qu'une telle formulation ne s'applique pas lorsque le chef de l'État français applique l'article 16 de la Constitution française, article 16, en fait, qui lui permet, qui donne au chef de l'État les pleins pouvoirs en situation de crise. Donc on voit comment les États, quand même, eh bien, essayent de freiner sur certaines dispositions, et en fait, on voit la souveraineté des États. Chaque État souhaite garder, finalement, sa souveraineté. Je pense également à la Finlande, qui a émis une réserve. La Finlande a émis une réserve sur l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque dans cet article 6, il est mentionné que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, et la Finlande nous explique qu'elle ne peut pas respecter cet article, notamment cette disposition, puisque devant la Cour suprême, eh bien, les audiences ne sont pas publiques. Donc il y a une réserve qui a été déposée. Pour terminer sur cette Convention européenne des droits de l'homme, on constate que dans cette Convention, on ne trouve pas les droits sociaux. Alors que dans la Convention des droits de l'homme de 1948, signée dans le cadre des Nations Unies, les droits sociaux, et plus précisément le droit à la sécurité sociale, fait partie des droits de l'homme. Alors, il y a un débat ici, effectivement, hein, sur les droits sociaux, sont-ils des droits de l'homme ou pas? Ils le sont au niveau des Nations Unies, mais peut-être pas au niveau européen. Quid également du droit d'asile, en fait, au sein de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc effectivement, il y a certaines questions hein, qui restent en suspens, et de manière générale, c'est vrai que les droits fondamentaux doivent faire face à la souveraineté des États. Lorsque l'on regarde, par exemple, que ce soit la Charte des droits fondamentaux ou que ce soit la Charte sociale européenne, on constate que ces instruments laissent une certaine liberté aux États. Notamment, la Charte nous précise eh bien, que les États, que la protection de l'enfant est garantie. Hein, les termes sont assez vagues, finalement, les formules assez généralistes. Hein, et donc, finalement, cela laisse une certaine latitude hein, aux États membres de l'Union. Donc, voilà ce qui me semble, ce que j'ai pu percevoir, c'est que d'un côté, il y a une montée en puissance de ces droits fondamentaux, et puis, d'un autre côté, il y a, je ne parle pas de recul, mais il y a des résistances, et on voit bien, effectivement, résistances qui, effectivement, vont sûrement s'amoindrir avec le temps, comme ça a été déjà le cas auparavant, et on peut penser que dans cette évolution, la Cour européenne des droits de l'homme eh bien, va jouer un rôle considérable, un rôle toujours plus important, comme la Cour de justice des communautés européennes, suite au traité de Lisbonne, puisque suite à ce traité, finalement, la Constitution européenne, ce qu'on appelle la Constitution européenne, si vous voulez, va avoir un véritable préambule où, effectivement, on fera référence à la Convention européenne des droits de l'homme et à cette fameuse Charte des droits fondamentaux. Donc, merci. Voilà.